BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur.
C'est parti pour BFM Patrimoine. On se retrouve pour deux heures quotidiennes, de 10h à midi, afin de vous permettre de gérer au mieux votre patrimoine. Et on commence bien évidemment, comme chaque jour, par toute l'actu éco avec Stéphanie Collot.
BFM Business, l'info éco.
C'est la fin des négociations exclusives entre Casino et Teract. L'échéance prend fin ce soir à minuit. On devrait en savoir davantage sur le contour du projet de Xavier Niel, Mathieu Pigas et Mouez Alexandre Zouari, les trois actionnaires de Teract qui semblent prêts à tout pour l'emporter, y compris, et ça c'est nouveau, à s'aligner financièrement sur l'offre de Daniel Kretinsky. En attendant les détails de l'offre, la situation financière du groupe s'aggrave. Le distributeur a reconnu avoir consommé 1 milliard d'euros de cash de plus qu'annoncé en 2022. Sur ce dossier Casino, retrouvez tous les détails sur notre site bfmbusiness.com. Société Générale cède 4 filiales en Afrique, au Congo, en Guinée équatoriale, en Mauritanie et au Tchad. Deux groupes reprennent la totalité des activités et l'intégralité des portefeuilles clients. La banque annonce par ailleurs l'ouverture d'une réflexion stratégique sur sa filiale en Tunisie. Saint-Gobain vise une marge d'exploitation à deux chiffres au premier semestre. Le groupe confirme par ailleurs ses perspectives pour l'année avec une marge d'exploitation comprise entre 9 et 11%. Dans le secteur auto, le chinois BYD, rival de Tesla, débarque en France. Le constructeur va y lancer 5 modèles 100% électriques pour concurrencer directement Renault et Peugeot. Il vise une centaine de points de vente d'ici à 2025. L'emploi confirme sa bonne forme. Il y a eu 86 800 créations nettes d'emplois dans le privé au premier trimestre, soit une progression de 0,4%. C'est deux fois plus que prévu et c'est le 9e trimestre consécutif de hausse. Les ETI françaises anticipent un ralentissement de leur activité en 2023 selon une enquête de BPI France. Elles s'attendent à être freinées par la hausse de leurs coûts, en particulier l'énergie et les salaires, et par des difficultés de recrutement. En conséquence, elles prévoient d'augmenter de près de 4% les rémunérations. Et puis la Grande-Bretagne va accueillir le premier sommet mondial sur l'intelligence artificielle, annonce de Rishi Sunak lors d'un déplacement aux États-Unis. Il permettra d'évaluer les risques posés par l'intelligence artificielle et d'établir une stratégie mondiale pour les atténuer. Le sommet devrait se tenir à l'automne. Le Premier ministre britannique souhaite par ailleurs que le futur régulateur mondial du secteur soit basé à Londres, Cédric.
Merci beaucoup Stéphanie Collot, que l'on retrouve dans une heure pour suivre cette actualité économique. Et nous, c'est le moment où l'on se connecte avec la Bourse de Paris.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.
Antoine Larigauderie nous attend au siège de Renex à La Défense. Bonjour Antoine, quelle est la tonalité du jour?
Bonjour Cédric. Bon, on va se répéter, hein, mais il se passe rien. On a un CAC 40 qui est toujours immobile, immobilisé, là entre 7150 et 7200. Sans vouloir s'écarter trop des 7200, on pensait qu'on aurait peut-être une sortie par le bas, hein, ce matin avec des indicateurs baissiers en avant-marché. Et puis au fur et à mesure que ça avançait, ben, on s'est rapproché du point d'équilibre et l'ouverture était quasi stable et on le reste, hein, moins 0,04%, 7199 points pour l'indice parisien. Alors ça ne veut pas dire qu'il se passe rien sur les actions, on va voir, il y a des arbitrages assez marqué, mais côté tendance de l'indice, hein, toujours rien de nouveau et vraiment un immobilisme qui commence à devenir un petit peu fatigant pour tout le monde. Le DAX à Francfort, moins 0,02%, on est à moins 0,14% pour l'Eurostock 50. Pour l'instant, rien ne bouge, hein, on semble vouloir jouer la prudence avant la réunion de la Fed, peut-être la semaine prochaine, mais en même temps, il n'y a pas trop de catalyseurs de marché de nature à vraiment faire décoller le CAC 40 ou même à le faire consolider de manière ferme et claire, hein. On se souvient que les derniers plus bas, ils étaient du côté des 7098, hein, les plus bas de mai, qu'on a quasiment égalé ces derniers jours. Mais pour l'instant, on n'a pas l'air de vouloir y retourner. Donc 7200 et rien de plus, rien de moins. Du côté des valeurs qui sont regardées de près, alors il y a pas mal de réactions au fait que les taux à 10 ans se raidissent un petit peu. On a passé le cap des 3% pour la dette française. 10 ans, on était à 3,03 tout à l'heure, on descend à 3,01. Mais il y a un petit peu de volatilité et un petit peu de dynamisme. Donc du coup, on le joue. Plus 2,47 pour la dette dette allemande, 3,80 pour la dette américaine. Et tout ça, bien évidemment, ça fait les affaires du secteur bancaire, du côté du CAC 40. Secteur bancaire qui signe les plus fortes hausses. Société Générale plus 1,77 à 23,01. On a Crédit Agricole plus 1,03 à 10,96. Ou BNP Paribas plus 0,99 à 57,32. L'autre gros catalyseur de hausse pour les marchés en termes de valeur, c'est Total. Total qui est en train de gagner 1% à 55,33 parce que ça se tend aussi du côté des prix du brut. Le baril de Brent de Mer du Nord cote juste au-dessus des 77 $, maintenant à 77,09. En revanche, des taux qui se redisent, ça ne fait pas les affaires des valeurs de croissance et notamment de la tech européenne. Capgemini signe la plus forte baisse du CAC à moins 1,62%, 167,05. Worldline, moins 1,24 à 36,65. Dassault System, moins 14 à 40,75. On réagit aussi à la clôture de Wall Street où on a vu le Nasdaq baisser assez sensiblement alors que le Dow Jones était plutôt en hausse. Donc du coup, des allègements sur les valeurs de la tech. Et puis, taux qui monte, c'est aussi pas très très bon pour le secteur du luxe, les valeurs de croissance chez nous. L'Oréal, moins 0,57 à 398,15 €. Et on a également Hermès qui baisse de 0,37% à 1884,40 €. On a Casino qui gagne 2,89% à 5,70 €, mais le titre avait déjà pas mal réagi à la spéculation hier. Mais sinon, rien de nouveau en termes de valeur. Le CAC, plus 0,01%, 7203 points. Et l'euro face au dollar, juste au-dessus d'un 0,7. On est à 1,0714, Cédric.
Merci beaucoup Antoine Larigauderie, donc que l'on retrouve chaque matin pour cette première heure de cotation décryptée à l'entame de BFM Patrimoine. Nous, les actions continuent de nous intéresser, on est au cœur de la cote parisienne.
BFM Business, BFM Patrimoine, Pépite Zépipo.
Et notre guide ce matin, c'est Sébastien Féjean qui nous attend chez Idemid Cap. Bonjour Sébastien.
Bonjour Cédric.
Merci d'être au rendez-vous. Vous nous proposez ce matin de jeter un œil sur Ipsos. Pourquoi ce choix ?
Vous savez, c'est un peu la période de la retape, parce que c'est vrai qu'on n'a plus trop d'infos sur les boîtes, en attendant évidemment les résultats du premier semestre et les premiers chiffres d'affaires qui vont commencer à tomber mi-juillet. Donc c'est évidemment une période un peu creuse. Donc on a décidé de vous reparler d'Ipsos, car on considère que le parcours depuis le début de l'année est quand même très négatif. Et on voudrait rappeler quand même qu'il y a quelques fondamentaux et des forces de rappel sur le titre.
Alors justement, qu'est-ce qui retient votre attention ?
Déjà la valorisation, mon cher ami, puisque nous sommes au plus bas depuis 2008. Alors je conçois qu'effectivement, il y a un certain désintérêt ou un désintérêt certain sur les small and mid en ce moment. Mais là, on doit dire quand même qu'on est sur une société qui fait à peu près de... Enfin, qui a un parmi les leaders mondiaux dans les sondages et de plus en plus se tourne vers la digitalisation, puisque... la partie Ipsos Digital qui croit à la fois en organique mais également par acquisition se développe de manière assez forte puisque c'était plus 36% de croissance au premier trimestre 2023. Je vous rappelle également que le premier trimestre 2023 avait été accueilli un peu froidement par les investisseurs puisque la croissance organique avait été un peu en dessous de ce qu'on attendait. Donc c'est un peu aussi ce qui explique la baisse depuis le début de l'année. Mais néanmoins, on a eu lors de l'AG qui s'est tenue mi-mai une confirmation des objectifs pour l'année en cours, c'est-à-dire une croissance organique de 5% et une marge opérationnelle courante autour de 13%. Donc finalement, peut-être que moins 20%, c'est peut-être un peu sévère. Et donc c'est pour ça qu'on voulait vous parler de Ipsos.
Malgré tout, vous avez rappelé un petit peu le cadre dans lequel on évoluait en bourse. C'est vrai que les investisseurs ont un peu fait la fine bouche ou se sont désintéressés de ce dossier.
Oui, absolument. Mais en fait, je pense que c'est globalement ce qu'on a pu constater sur l'ensemble des valeurs moyennes et des PMI ETI cotées. Donc, quand on voit la performance des indices small caps comparativement aux, notamment au CAC 40, on a 12-13 points de différence. Ce phénomène, je vous le rappelle, mon cher Cédric, se poursuit depuis environ 2018. Et l'ensemble des fonds que les brokers suivent ont constaté encore au premier trimestre une décollecte de l'ordre de 400 millions d'euros. Mmh. Donc tout ça se retrouve évidemment dans beaucoup de valeurs. Alors certaines on le voit en poupe pour des questions d'intérêt et de grandes tendances. Ipsos nous semble complètement être laissé à part alors qu'ils sont quand même dans des secteurs qui voilà.
Qu'est-ce qu'on peut dire justement des métriques du groupe finalement quand on regarde son chiffre d'affaires, son résultat, ses perspectives, son cœur de métier?
En fait, on attend une stabilité globalement de la marge opérationnelle courante entre 2022 et 2023. mais on a une VE sur CA, donc une valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires qui est de 0,8. Donc qui est au plus bas depuis 2008, donc on comprend pas très bien pourquoi dans un monde où vous avez besoin de mieux comprendre les aspirations à la fois donc des citoyens mais également des consommateurs qui sont souvent les mêmes. Ensuite vous avez évidemment en termes de multiples de résultats, vous êtes à 6 fois en VE, donc valeur d'entreprise sur résultat opérationnel, et en PER vous êtes à moins de 9 fois. Donc j'ai envie de vous dire, pour une société qui pourrait faire des acquisitions, puisque il devrait finir en dette nette, enfin plutôt en trésorerie nette positive 2023, on a quand même plus de chances que ça monte que ça ne baisse. Voilà. Et donc on s'est fixé comme objectif ambitieux d'atteindre 75 euros à terme. Peut-être pas tout de suite, mais ouais. À terme.
Bon, à terme donc. Recommandation d'achat, donc objectif de cours 75 euros sur ce dossier Ipsos, donc défendu ce matin par Sébastien Féjean depuis ID Midcaps. Merci beaucoup Sébastien d'avoir été présent au rendez-vous de ces petites et moyennes capitalisations ce matin. Le marché, lui, reste pour le moment assez indécis, hein. Légère baisse, moins 0,03 sur les 7200 points.
BFM Business, BFM Patrimoine, le point macro.
L'heure de retrouver Marc Touati qui nous attend au sein du cabinet ACDFI. Bonjour Marc.
Bonjour Marc, Cédric.
Vous nous entendez?
Oui, très bien, je vous entends très bien, et vous?
Eh bien parfait. Ce matin, vous vouliez évoquer l'inflation, je vais vous dire pas grand-chose de neuf sous le soleil, mais aussi la déflation. Pourquoi ces deux termes proposés, suggérés ce matin, Marc?
En fait, c'est très simple, c'est-à-dire qu'on a fait enfin, entre guillemets, une bonne nouvelle, c'est qu'on a un recul de l'inflation qui... Alors attention, ça veut dire que les prix baissent, mais c'est vrai que là, on est dans une phase de ce qu'on appelle de désinflation, c'est-à-dire que l'inflation est de moins en moins forte, et le problème, c'est de savoir est-ce que ça va continuer, que ça ne va pas se transformer en déflation. C'est ça qui est extrêmement dangereux aujourd'hui, puisque comme les prix ont beaucoup trop augmenté, ça casse l'activité économique, donc ça peut générer une récession, et ensuite la déflation. Alors bon, pour l'instant, on n'en est pas là, sachant que, attention, quand on regarde les cours des matières premières, que ce soit les prix du baril, ou également, vous savez, l'indice CRB de toutes les matières premières dans le monde, on se rend compte que finalement, ça se maintient sur des niveaux élevés. Donc on n'est pas encore dans une phase de déflation. Et parce que justement, on a des différences de croissance entre les différentes zones de la planète, avec d'un côté le monde émergent, entre guillemets, l'Inde, la Chine, qui résiste bien, et de l'autre côté, notamment chez nous en Europe, une récession qui est en train de revenir. Donc c'est ça qui est dangereux aujourd'hui, c'est que cette forte inflation est en train malheureusement de générer une récession en Europe qui pourrait ensuite se transformer en déflation.
Et du coup, ça, c'est deux choses qui sont à mettre en relation, en perspective, en résonance avec la croissance.
Voilà, c'est ça qui est extrêmement dangereux. C'est que si on, par exemple, on prend le cas du Japon, hein, dans les années 80-90, il y avait une croissance très forte, une inflation très forte. Et ensuite, il y a eu cette phase de déflation. Donc, les prix ont baissé. Et par exemple, les niveaux des prix de 1998 ont été retrouvés en 2018. C'est-à-dire que plus de 20 ans plus tard. Donc, ce qui veut dire que le danger que nous avons aujourd'hui, c'est que, attention, on pourrait avoir une phase de très forte baisse des prix, encore une fois, à cause de la récession. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, la baisse de l'inflation n'est pas forcément une bonne nouvelle, parce qu'elle est liée à, je dirais, un danger sur l'activité économique. Et si on prend, par exemple, le cas français, avec des prix qui continuent de flamber, notamment sur l'alimentaire, alors là, évidemment, ça peut alimenter une crise sociale, voire sociétale, et c'est ça qui est dangereux. C'est ça qu'on a oublié, c'est que l'inflation, elle est dangereuse, non pas pour faire plaisir à la BCE avec 2% d'inflation, mais surtout parce que ça cache ce pouvoir d'achat, et ça peut générer une récession, voire une crise sociale et sociétale, avec, on le voit aujourd'hui en France, des niveaux de faillite d'entreprises qui explosent. Si on prend par exemple les moyennes entreprises aujourd'hui en France, on est sur une augmentation de 80% des faillites d'entreprises, au point des défaillances sur un an, et plus 50% par rapport à 2019, donc avant le coronavirus. Donc ce qui veut dire que ces défaillances vont ensuite se traduire par, malheureusement, des licenciements, donc une hausse du chômage, donc moins de pouvoir d'achat. Donc c'est là où effectivement ça peut alimenter la récession. Plus parallèlement le fait que la dette publique continue d'augmenter, notamment en France, avec des risques sur une augmentation des taux d'intérêt. Donc c'est le danger, la triple peine, ça veut dire baisse du pouvoir d'achat, chômage qui revient et taux d'intérêt qui augmente. Donc voilà, voilà dans le piège dans lequel on est en train de s'enfermer malheureusement. Et donc c'est pourquoi ces chiffres de baisse de l'inflation ne sont pas forcément une bonne nouvelle, parce qu'ils pourraient se traduire malheureusement par une récession et ensuite une déflation.
Merci beaucoup Marc. Marc Toiti et le cabinet AC Défi qui nous accompagnait ce matin. Très bonne journée sur le marché Marc, et à très vite. Le marché parisien qui fait un peu du surplace, qui se tâte sur la tendance à adopter. Légère hausse, plus 0,09%, 7209 points.
BFM Business, BFM Patrimoine, la vie immo.
Bonjour Marie Cardoroy.
Bonjour Cédric.
On accueille ce matin Pierre Chapon pour Préto. Bonjour. Des déçus ou est-ce qu'on a pêché un content ?
Non, je fais partie des déçus aussi sur deux points, sur la précision de ce qui a été livré alors que ça avait été retardé. Moi, je dis un petit peu pareil que mes camarades, mais c'est assez affligeant quand même. Sur pas mal de volets, on nous dit on va se pencher dessus, on va s'y mettre.
Oui, c'est ça, on lance des réflexions, mais voilà. Pas grand-chose de concret.
Exactement, quoi. Alors pour être positif, on peut se dire que on a quand même eu la première ministre qui a pris un peu la mesure des choses, elle dit elle va s'y mettre. Donc attendons de voir, soyons patients. Mais sur le fond, on a l'impression qu'il n'y a pas de prise de conscience qu'on est face à une crise.
Pour revenir sur ce qui, enfin, votre thématique à vous, ça reste quand même le crédit IMO. Juste pour dire ce qui a été dit là-dessus dans le cadre de ces grandes inspirations du gouvernement autour du CNR, il y a eu acté le fait que la mensualisation du taux d'usure allait perdurer jusqu'à la fin de l'année et non pas jusqu'à juillet comme c'était prévu au départ, et de dire de la part de l'exécutif, nous on est favorable à un assouplissement des règles d'octroi de crédit, mais c'est pas nous qui décidons, c'est le Conseil de stabilité financière qui se réunit le 13 juin. Donc voilà, il y a eu deux éléments sur le crédit immobilier. Sur le premier, sur la mensualisation du taux d'usure, est-ce que vous faites partie de ceux, comme beaucoup de courtiers, qui disent « Ok, super, c'est un peu tard ».
Oui, ça sert pas à grand chose. C'est une bonne chose, mais parce que ça nous immunise, on va dire, contre une phase qui pourrait arriver théoriquement de reflamber des taux. Mais c'est quand même assez peu probable. Le problème du taux d'usure, ça fait maintenant près d'un an qu'il existe et on arrive au bout. Donc c'est vraiment anecdotique, ça ne sert pas à grand chose.
Ok, bon, donc ça on met de côté. Non. Maintenant on parle de l'assouplissement des règles d'octroi et c'est ça qui, je pense, va nous intéresser le plus. On voit aujourd'hui que les banques ne vont pas jusqu'au bout de ce qu'elles peuvent faire sur le crédit immobilier. On rappelle rapidement, il y a deux règles de base du Haut Conseil de stabilité financière, le régulateur des banques en matière de crédit, qui sont un taux d'endettement maximal de 35% et deux, une durée d'emprunt pas supérieure à 25 ans. Et dans 20% des cas, elles peuvent déroger à ces règles, les banques. Or, aujourd'hui, on nous dit qu'en réalité, elles sont pas au max de ces 20%, elles sont à 14% au dernier pointage. Donc, assouplir les conditions d'octroi de crédit, est-ce que franchement, c'est ce qu'il faut ou est-ce que c'est pas juste les banques qui veulent plus prêter ?
Alors, c'est pas du tout les banques qui veulent plus prêter. Donc oui, assouplir les règles d'octroi de crédit, c'est ce qu'il faut. Déjà, faut nommer un chat un chat. La production de crédit, elle s'effondre. On est à moins 40%. Ouais. En 2008, au pire de la crise, ça avait fait moins 50. Et on parlait du système financier qui est à bout de souffle.
Donc on n'est pas très loin de ce qu'on a connu.
On n'est pas très loin de ce qu'on a connu en 2008. Et on a toujours la Banque de France qui parle de normalisation, de c'est pas si mal parce qu'on est pas pire que le mois dernier. Là déjà, il y a un constat qui n'est pas fait assez, c'est que le marché est en crise, faut le dire. Et donc oui, il faut faire bouger les règles d'octroi de crédit. Le fait que les banques n'utilisent pas complètement leur marge de dérogation, c'est pas qu'elles ne veulent pas, c'est que techniquement c'est très difficile à piloter parce que il y a des sous-ensembles, il faut que ça soit une quote-part de résidence principale et puis c'est régulé au niveau du trimestre et pas annuel. Donc c'est impilotable. Les banques nous disent que c'est vraiment impilotable, donc elles prennent des marges de manœuvre, puisque maintenant, vu que c'est devenu une obligation contraignant, ça rigole pas si si elle dépasse les 20%. Et vu que c'est difficile de piloter ça au sein d'un réseau bancaire, et ben ça rabote en fait. Tout le monde se couvre un petit peu.
Donc comment on fait pour assouplir? Qu'est-ce qu'on peut assouplir? Est-ce qu'on doit assouplir ces sujets de sous-ensemble au sein de ces 20% de dérogation possible? Est-ce qu'on doit reparler du taux d'endettement comme on en a déjà parlé? Est-ce qu'on doit revoir la durée maximale des crédits immobiliers? C'est quoi selon vous les pistes à creuser là pour le prochain
ou annualiser conseil? Visiblement détrimestre. Réaliser,
ça. Exactement. Alors déjà, et je sens que c'est le peut-être la partie la plus acceptable par le Haut Conseil, c'est oui, simplifier les règles au sein de cette enveloppe de 20%. Donc donner plus de marge de manœuvre, que ça soit au niveau des typologies de projets qui peuvent être concernés, ou le pointage, est-ce que c'est trimestriel ou est-ce que c'est annuel. Donc ça serait déjà une avancée, ça permettrait aux banques de maximiser, d'aller au 20%. On pourrait aussi aller au-delà de 20%. C'est là, encore une fois, on est face à une crise et rappelons que des mesures sur les règles d'octroi de crédit, ça permet de donner de l'air au marché sans dépenses publiques, parce qu'on sent bien que ce qui bloque beaucoup le gouvernement, c'est que les deniers publics se font rares.
Ouais. On rappelle, le plan d'urgence, c'est 2 milliards d'euros d'économie en fait.
Voilà, c'est ça.
Malgré tout, on le disait hier avec Marie, on peut pas. Dire on fait un pot commun entre ceux qui veulent s'acheter une baraque au bord de mer, ceux qui veulent investir parce qu'ils en ont les moyens, et les primo-accédants qui tirent déjà la langue avec la hausse de taux, qui ont la question de l'apport, qui ont la question de l'épargne résiduelle, qui ont une... Voilà, donc il faut quand même protéger à minima, oui, dans ces 20 ou 25%, etc.,
quoi,
ouais. Ouais, sanctuariser une partie de primo-accédant si on veut
cette partie-là,
continuer,
oui,
à amorcer le parcours résidentiel.
Tout à fait, et ça bénéficie au reste du marché. Ouais. Donc oui, mais il faut simplifier quand même. Et ensuite, sur le seuil lui-même, oui, il faut le faire bouger. En particulier... en favorisant la transition énergétique. Je m'explique. Là, on voit que le PTZ est raboté, en fait.
Ouais,
il est prolongé, mais en fait, il est raboté. Alors que le neuf, c'est déterminant pour la production de logements, évidemment, et pour la production de logements de bonne qualité énergétique. On pourrait très bien imaginer que l'endettement possible dans l'achat de neuf soit supérieur à 35%, puisque de toute façon, après, il y a un avantage sur
les
dépenses des ménages, il y a un avantage sur les travaux dans les 10 premières années, et il y a un avantage sur la valeur du bien dans la durée. Donc c'est un bon endettement d'aller au-delà de 35% quand on achète du neuf. Et si on veut faire moins de PTZ, on peut très bien faire ça et ça ne coûte rien aux finances publiques.
Est-ce que c'est pas dangereux de pousser l'endettement des ménages? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres solutions?
Il y a d'autres solutions. La solution pour retrouver un équilibre de marché, c'est la baisse des prix. Mais ça se décrète pas, la baisse des prix. Et de toute façon, c'est la...
Parce que là, en fait, je vous dis ça parce que là, on a l'impression que même si du côté de Bercy et du gouvernement, on nous dit il faut assouplir les conditions d'octroi de crédit, on n'a pas tellement l'impression que cette borne des 35% soit le sujet. Moi, j'ai presque plus l'impression qu'on soit plus sur des sujets de prise en compte du reste à vivre dont on a beaucoup parlé. Alors, on le redit à l'antenne quand même, mais 35% quand je gagne 10 000 euros par mois ou si je gagne 1 500 euros par mois... C'est pas pareil. Donc voilà, est-ce que ça pourrait être une solution alternative?
Tout à fait,
exemple.
Mais ça revient un petit peu au même. Ça revient un petit peu au même.
Mais ça va mieux en le disant souvent. En
fait. Exactement. mais déjà, c'est une bonne intention du gouvernement de le dire. On verra ce que ça donne au sein du HCSF quand il faut batailler avec la Banque de France.
Bon, là on est début juin. On en est où du taux moyen sur 20 ans?
Taux moyen sur 20 ans, on est à peu près à 3,8. On est à peu près à 3,8, donc moins 25% de pouvoir d'achat par rapport à avant la montée des taux.
Et chez vous, c'est quoi les perspectives pour l'été, pour potentiellement la rentrée, voire la fin de l'année là?
Sur les taux?
Ouais.
Alors les taux, on pense que la tendance haussière, elle va continuer, elle va se calmer, je pense, à partir de l'automne.
Ouais.
Pourquoi? Parce que là, les banques recommencent à trouver un équilibre financier sur le crédit immobilier. Les niveaux de taux font que certaines nous disent commencer à faire un petit peu de marge, certaines nous disent continuer de perdre un petit peu d'argent, ça dépend des modes de calcul des banques, mais grosso modo on a quand même atteint un équilibre. Et le deuxième effet, c'est que la concurrence va augmenter un petit peu. On anticipe que des banques vont revenir sur le prêt immobilier là où elles sont un petit peu dormantes depuis plusieurs trimestres, et ça peut un petit peu calmer les taux aussi. Donc tendance haussière, mais...
On finit l'année à combien, en gros, sur 20 ans, selon vous?
On finit l'année... on va dépasser les 4, entre 4 et 4,5. c'est large comme fourchette.
Mais est-ce que vous faites partie de ceux, et après on vous embête plus, mais est-ce que vous faites partie de ceux qui pensent que, allez, à 4,5-5%, on aura atteint une espèce de plafond, et puis finalement, ça va stagner, voire limite refluer dans les années suivantes. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous paraît...
Alors, c'est hyper dur de se prononcer vraiment, mais c'est pas impossible. On entendait que l'inflation commence déjà à baisser. Ouais. Si la baisse se confirme durablement, les taux vont plus augmenter. Mais pour que les taux baissent, il faut que les taux directeurs baissent.
Ouais.
Et ça veut pas dire que l'inflation doit baisser, ça veut dire que l'inflation doit revenir à 2%. Mmh. Et ça, on en est encore loin.
Merci beaucoup d'être venu partager sur tous ces sujets sur le plateau de BFM Patrimoine. Et on en profite pour vous rappeler que demain matin, entre 10h et 11h, BFM Patrimoine consacre une édition spéciale à ces questions immobilières avec Marie.
Ouais,
on se retrouvera.
Et puis vraiment, suivez-nous parce qu'on aura vraiment du temps. Une première demi-heure sur le marché du neuf, une deuxième demi-heure sur le marché de l'ancien et de la rénovation. Je pense que ça peut vous intéresser.
Tout ce que vous voudrez savoir sur ces implications immobilières demain matin, 10h, 11h, édition spéciale de BFM Patrimoine. D'ici là, on a rendez-vous bien sûr avec les marchés. Ce sont nos traders qui sont sur le pont.
BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur.
Chaque matin à 10h30, deux traders vous ouvrent leurs écrans. C'est le match des traders. Jean-Louis Cussac et Alexandre Baralez sont en liaison avec nous depuis Perceval Finance Conseil pour Jean-Louis et depuis IG pour Alexandre. Bonjour à tous les deux et merci d'être présents pour ce rendez-vous graphique et technique que l'on retrouve au quotidien. Alexandre, votre sentiment dans ce marché qui, presque matin après matin... semble manquer un peu d'initiative, de volonté, d'idées.
Oui, c'est déjà au niveau du calendrier, c'est quand même une des semaines de l'année les plus calmes en termes de données macroéconomiques. Donc il y a assez peu de choses à exploiter pour le marché, pour jouer les décalages, les mouvements importants. On a quand même eu hier, ça c'est un élément à noter, une surprise du côté de la Banque du Canada. Alors on peut se dire quel impact a une décision de la Banque du Canada sur les marchés européens ou américains, c'est que justement la Banque du Canada avait mis ses taux en pause depuis quelques mois et les a relevés de manière surprise hier. On n'attendait pas une hausse de taux hier et elle les a relevés de 4,50 à 4,75. Et pourquoi c'est un élément important? Parce qu'on a vu que dans la foulée, il y a un mouvement assez global sur les taux, si bien en Europe qu'aux États-Unis, donc les taux ont commencé à partir un peu à la hausse et certaines classes d'actifs ont moins aimé les actions par exemple et surtout les valeurs tech. Alors, le CAC est un peu moins concerné par ça parce qu'il n'est pas sensible ou assez peu sensible aux valeurs technologiques, mais simplement c'est une petite force de rappel pour considérer ce qui pourrait se passer au niveau de la Fed la semaine prochaine, donc mi-juin, où le marché à ce stade presse toujours une pause, quand je dis le marché, les futurs Fed Funds notamment, presse toujours une pause de la Fed à la mi-juin, mais la décision de la Banque du Canada nous rappelle qu'on n'est pas à l'abri de surprise en termes de mouvement sur les taux. Alors moi je pense quand même que le CAC 40 à ce stade, il faut toujours le considérer de manière très technique. C'est-à-dire pas essayer de faire de deux plans à 3 mois ou 4 mois, c'est de se dire voilà, à quoi ressemble le CAC 40. Si on regarde la vue sur quelques mois, le CAC est dans une espèce de biseau haussier. Donc quand vous reliez les creux importants, puis les résistances importantes, c'est une espèce de biseau. De ce biseau, on est sorti par le bas à la fin du mois de mai. On a ensuite retracé, donc le point bas a été fait un petit peu sous 7100 points. On a ensuite rebondi, on a passé un pullback, on a rebondi pour venir tester la zone de cassure. Donc l'ancien support devient résistance. Et depuis, on se balade dans la zone de 7200 points. Donc ce qu'il faut regarder là, c'est les mouvements court terme. En gros, 7200, si de 7200 on passe à 7100, ça veut dire qu'on n'a pas d'appétit à court terme pour réintégrer ce biseau, donc qui est un biseau haussier. Et donc, retour à 7100 dans un contexte où les taux se redressent, dans un contexte où la macro également n'est pas hyper favorable. On a vu qu'aux États-Unis, ISM Service, très proche de la zone de contraction, donc ce qui fait craindre qu'on ait fait un peu ciseaux. Une Fed qui reste agressive, des données macro qui ralentissent, et ça, pour le marché, ça peut être un frein. Donc si on a un CAC 40 qui, dans ce contexte-là, vient chercher, sachant qu'en Europe, la thématique est toujours celle des hausses de taux, donc là, on ne se pose pas la question d'une pause. Si on retombe à 7100 dans ce contexte, je pense qu'il y a une poche de faiblesse qui peut se former assez rapidement pour aller rechercher sous les 7000 points assez vite, hein, une zone 6009, voire 6008. Donc sous 7100, attention, risque de turbulence à nouveau. Et pour les zones d'achat, soit on est un investisseur moyen long terme et acheter les zones actuelles, c'est pas un problème. Soit on est plutôt en timing, on essaie de chercher plutôt ce qu'on appelle des swings, des opérations sur quelques jours, et ne pas se placer trop tôt. Et à ce moment-là, pour le CAC 40, moi, j'aurais quand même une préférence pour attendre le retour à 7500, 7550 pour commencer à jouer, voilà, l'hypothèse que le bottom, que le creux a été formé. Donc, c'est un marché assez technique. Et voilà, voilà les zones d'intervention potentielles. Mais à 7200 points, c'est une zone qui est assez neutre à très court terme.
Voilà la vision proposée par Alexandre Baradez. Jean-Louis, comment vous positionnez-vous sur ce marché? Comment parvenez-vous à le travailler ce matin?
Alors oui, d'une manière plutôt opportuniste, comme je l'ai répété tous ces derniers temps, sans idée forte sur une tendance, il n'y a pas de tendance, et c'est prouvé. Pour autant, le marché reste solide, ça aussi c'est prouvé. Alors la volatilité implicite a énormément reculé, mais c'est pas suffisant pour parler de complaisance. On n'est plus dans une situation où les investisseurs ne savent plus trop quoi faire. D'ailleurs, vous avez commencé par là, Cédric, en disant, bah oui, il se passe pas grand-chose. Ils n'espèrent rien de fort et ils ne craignent pas grand-chose. Ils ont tellement vu de trucs pas possibles qu'ils se disent, de toute façon, on trouvera des solutions. Et donc, la volatilité recule, la volatilité implicite, mais on a des beaux écarts intraday. Ce matin, par exemple, comme hier, on avait défini une zone 7175-7255. Alors, comme on est allé chercher le 75, peut-être qu'on commencera à vendre vers 33, vers ce niveau de 30-35, 7230-35. On verra, ça dépend comment on y va, quelle vitesse, etc. Mais si vous voulez, c'est vrai que on est plus dans l'idée de se dire, je vais acheter des options pour pouvoir, par exemple, si j'achète un put que je paye pas cher en termes de volatilité implicite, ben, je pourrais acheter du futur dans le sens prioritairement toujours plutôt un peu haussier, quand même sur le long terme. On n'a pas remis en cause l'idée d'acheter. Cette remise en cause apparaîtrait sous 7030 futur juin. Voilà, le matin c'est clair, c'est 7030. Si vous voulez, vous avez les taux d'intérêt hein, qui sont importants maintenant quand même sur les contrats futurs. Donc le 7030 d'aujourd'hui, on va dire pour jusqu'à l'échéance, eh bien il y a quelques jours encore, c'était un peu plus parce que le taux d'intérêt était appliqué, était plus important. Si vous voulez, sur la période était plus longue, donc il y avait plus de taux d'intérêt. On n'est plus dans des constantes avec des taux d'intérêt à zéro. Ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Bon, ça c'est purement technique. Maintenant, l'idée, c'est j'achète et je cherche aussi parfois à vendre en étant, pourquoi pas, protégé par des options que l'on ne paye pas cher, avec l'idée de rentabiliser ces options en faisant des écarts, en minimisant le risque au maximum et en étant très à l'aise pour faire ces opérations. Pour l'instant, rien ne permet de penser que le marché va partir à la hausse. Au contraire, on reste sur l'idée que le potentiel est épuisé. Et rien ne permet de penser qu'il va partir à la baisse. Voilà, pas de raison vraiment importante. Il y en a tellement eu, et il y en a encore, vous me direz. Mais on les a gérés. Il y a tout un tas de prises de position qui ont été prises pour pallier à ce genre de choses, pallier à tous ces problèmes. Donc, les marchés résistent et restent, on va dire, très résilients. Sans effet domino potentiel, etc., etc. Donc voilà, on essaye, tant qu'on est au-dessus de 7050, on continue à acheter et on cherche à faire des écarts le plus possible.
Merci beaucoup à tous les deux, donc Jean-Louis Cussac, Perceval Finance Conseil et Alexandre Baradez de Puig. Jean-Louis, on vous retrouve tout à l'heure à 11h30 pour suivre cette séance du jour, le CAC 40 qui se cherche, hein, mais qui prend un peu d'altitude, plus 0,25, on est à 7220 points.
BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique.
C'est pour la polémique, on retrouve donc Nicolas Dose. Bonjour Nicolas.
Bonjour
Cédric.
Les
frais des agences immobilières sont dans le viseur. Dans un avis rendu hier à Bercy, l'autorité de la concurrence dénonce ce que les agences prélèvent sur les ventes. Que dit-elle précisément?
Elle dit trois choses, enfin je retiens trois choses, c'est trop cher. C'est quand même le message principal. On est en France, nettement au-dessus de la moyenne européenne. On est à 5,8% du montant de la transaction TTC. Et en Europe, la moyenne, c'est 4%. Ensuite, l'autorité de la concurrence remarque que le montant total des commissions prélevées par les agents immobiliers a totalement explosé. Parce que c'est un pourcentage qui dépend du prix. Et comme les prix ont beaucoup monté,
oui, bien sûr.
Eh bien, il y a un chiffre, 7 800 euros, oui, il y a quelques temps. Et désormais, on laisse 15 000 euros dans une opération en moyenne, hein, une opération immobilière. Et troisième élément, les commissions prélevées par les agences aujourd'hui représentent pas loin de la moitié de l'ensemble des frais de la transaction, 44%. L'autre gros morceau, bien sûr, ça s'appelle les DMTO, les droits de mutation à titre onéreux, c'est-à-dire les
frais. Ils se sont pas penchés là-dessus, là, par contre.
Non. Ben, oui, c'est, si on veut agir sur les...
Ce qu'on appelle abusivement les frais de notaire,
oui.
Ben,
c'est de la fiscalité.
Oui. Eh ben, voyons. Voilà. Qu'est-ce que propose l'autorité à la concurrence, du
coup ? Eh bien, de ramener tout simplement la facture dans la moyenne de l'Europe. On revient vers les 4%, ça fait 3 milliards d'euros en moins, ça fait à peu près 5 000 euros d'économiser en moyenne sur une transaction. Et comment fait-on ? Eh bien, en mettant plus de concurrence. En donnant plus d'armes, en fait, aux clients pour être en position de pouvoir négocier les honoraires de l'agence. Et alors, la principale piste qui est proposée, c'est une réforme de la loi Auguet, la loi de 1970 qui encadre la profession de l'immobilier, considérant qu'il y a des quantités de prestations qui ne sont pas nécessairement... Enfin, qui ne doivent pas nécessairement être faites par l'agent immobilier. Pourquoi c'est l'agent immobilier qui va orchestrer les diagnostics, qui va diffuser les annonces, même organiser les visites? Ça peut très bien être d'autres acteurs. Et là, il y a de la concurrence possible qui pourrait permettre de faire baisser les prix. C'est l'idée que plus de concurrence, c'est bon pour le consommateur à l'arrivée. Alors, laisser quand même quelques domaines réservés pour les agents immobiliers, notamment la désignation de l'acquéreur et la partie négociation. Et puis, il y a aussi une autre piste, c'est que l'agent immobilier ait l'obligation de donner un maximum d'informations sur l'ensemble des prestations qu'il délivre, de manière à ce que la photographie soit suffisamment claire et lisible pour que, encore une fois, le client soit en position de négocier. Il faut quand même rappeler un truc que tout le monde sait, mais que c'est bien de le rappeler. Il n'y a aucune obligation de passer devant un agent immobilier pour une transaction immobilière. Il n'y a que l'acte du notaire qui va garantir une sécurité juridique.
On peut vendre entre particuliers.
Mais bien, voilà. Donc, voilà un peu ce que nous dit l'autorité de la concurrence.
Qu'est-ce que ça va donner, cet avis ?
C'est là où je suis un peu dubitatif, parce que l'avis a été... Je ne sais pas si le calendrier de cette semaine logement était voulu ou si c'est un hasard, en fait. Mais ça tombe pas très bien à Bercy, parce qu'il y a eu le plan Borne, qui a pas mal froissé, déjà, les professionnels de l'immobilier.
On rappelle qu'on en parlera encore largement demain matin dans une édition spéciale entre 10h et 11h.
Le plan Borne, il s'apparente plus à un plan d'économie de dépenses publiques qu'un grand plan pour parer la crise du logement. Et donc, à Bercy, on a reçu le travail commandé. La réaction a été de dire « Ces recommandations méritent un travail d'analyse dans les prochains mois ». Vous voyez ce que ça veut dire. Alors évidemment, la FNAIM, le principal syndicat du secteur immobilier, s'est ému, on va dire, hier, à la suite de la publication de cet avis de l'autorité de la concurrence. D'ailleurs, on voit bien où est l'enjeu. L'enjeu est toujours le même. L'enjeu, c'est qu'il faut doper par tous les moyens le secteur de l'immobilier, notamment le pouvoir d'achat. Alors, on a la possibilité, on va peut-être d'ailleurs le faire par les contraintes imposées aux banques pour libérer du crédit, en libérant ces contraintes dans l'espoir de permettre aux gens d'emprunter plus, tout simplement. Et ben là, l'idée, c'est de le faire par le biais de la concurrence entre professionnels de l'immobilier pour faire baisser les prix.
Nicolas Dose et la polémique du jour. Merci Nicolas, on se retrouve demain, même heure, même endroit. Et nous, on continue à vous donner un maximum de conseils ce matin.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.
Et on s'intéresse ce matin à l'exonération qui profite aux contribuables lors de la vente de sa résidence principale. Et pour ce faire, on accueille Charles de Crevoisier. Bonjour Charles.
Bonjour Cédric.
Merci d'être avec nous pour le cabinet Fidal. Alors les plus-values que l'on réalise lors de la cession de sa résidence principale, est-ce que ces plus-values sont intégralement exonérées ?
Alors effectivement, la législation française prévoit un dispositif d'exonération totale pour les plus-values qui portent sur la résidence principale du contribuable. C'est une exonération qui concerne l'impôt sur le revenu, les contributions sociales, la taxe sur les plus-values immobilières et la contribution sur les hauts revenus, ce qui peut représenter en fait une économie d'impôt de l'ordre de 46%, qui est le taux marginal d'imposition des plus-values immobilières en droit commun. Ce qui va expliquer d'ailleurs que l'administration fiscale est assez vigilante lorsque l'on revendique cette exonération.
Oui. Certains, par abus de langage, disent que la première niche fiscale, c'est la résidence principale dans ces cas-là. Comment est-ce qu'on bénéficie de cette exonération quand on vend sa résidence principale ?
Alors, comme vous l'avez dit tout à l'heure, effectivement, lorsqu'on veut vendre un bien, on va se tourner vers un notaire, et c'est le notaire qui, dans l'acte de vente, va indiquer sur la déclaration du vendeur que le bien constitue sa résidence principale et que la plus-value est en conséquence exonérée.
D'accord, donc c'est juste une démarche de son notaire. Comment est-ce qu'on qualifie justement que c'est une résidence principale, parce que...
Alors, la définition qui était posée par l'administration fiscale, c'est de dire que la résidence principale, c'est la résidence qui constitue le lieu habituel et effectif où demeure le contribuable. Par résidence habituelle, on nous dit que c'est le lieu où la personne va habituellement passer la majeure partie de l'année.
D'accord, donc c'est assez simple, il faut passer plus de la moitié des 365 jours dans cette résidence-là pour qu'elle soit qualifiée de résidence principale. Comment on justifie ? C'est juste la déclaration du notaire dont vous avez parlé précédemment ?
Voilà, c'est effectivement sur déclaration du notaire dans l'acte de cession, mais en cas de contrôle, il va falloir, le vendeur en fait, va devoir apporter la justification que le bien qu'il cède était sa résidence principale. Et ça, ça va se faire sur la base de différents indices qu'il va pouvoir produire, notamment lorsqu'il a d'autres biens par ailleurs et qu'on peut présumer que le bien qu'il cède... Il a pu vivre ailleurs. Donc on va d'abord regarder la déclaration qu'il avait faite en matière de taxe d'habitation. Est-ce qu'il avait déjà revendiqué que ce bien était sa résidence principale ? On va regarder les consommations d'eau, d'électricité, de gaz. On va regarder d'éventuels justificatifs relatifs à des déménagements qui auraient eu lieu peu de temps avant. On va regarder l'adresse qui a été communiquée à des fournisseurs, par exemple l'adresse qui a été communiquée à ces établissements bancaires pour recevoir les relevés de banque. Donc il y a tout un tas d'indices comme ça qui vont permettre de justifier que le bien cédé était la résidence principale du contribuable.
Alors justement, on va être tatillon et on va se dire finalement j'envisage de vendre une résidence secondaire, je sais que je vais avoir une grosse plus-value, donc je fais le malin, je déménage quelques semaines ou quelques mois avant dans cette résidence-là pour, entre guillemets, bénéficier du parapluie. C'est possible, on peut le faire, là encore
Alors effectivement, de nombreux contribuables ont effectivement cette idée. Et ce qui va être important en fait, c'est de vérifier que au moment de la vente et dans les semaines qui ont précédé, voire les mois, eh bien, il y a bien eu un changement de nature du bien et que le bien qui était avant une résidence secondaire est bien devenu la résidence habituelle et effective du contribuable. Et donc il va falloir avoir l'ensemble des justificatifs pour pouvoir le démontrer.
Oui. Mais il y a un délai, parce qu'en fait, je veux dire, même on peut imaginer de bonne foi, entre guillemets, être parti pour un job en province, habiter dans ce qui était effectivement une résidence d'été, puis se dire, bah, la maison n'est pas adaptée, faut qu'on en achète une autre, et vouloir vendre cette résidence qui est, entre guillemets, de fait, sa résidence principale. Là encore, on n'aura peut-être pas les X mois de consommation de gaz, d'eau. Après tout, les factures, maintenant, on les reçoit par mail et plus forcément par papier dans la boîte aux lettres.
Alors, effectivement, c'est d'autant plus une question cruciale qu'en général, le jour de la vente chez le notaire, eh bien, on a entre-temps déménagé, on a entre-temps trouvé un autre bien dans lequel on s'est installé et le bien qu'on vend n'est plus sa résidence principale depuis plusieurs semaines ou plusieurs mois. Alors, l'administration admet effectivement que le fait qu'on ait déménagé peu de temps avant ne fait pas obstacle au bénéfice de l'exonération, sous deux conditions. La première, c'est qu'entre-temps, le bien n'ait pas été loué à quelqu'un d'autre ou mis à disposition d'un proche, comme on peut en avoir à la tentation. Et puis, surtout, qu'il se soit écoulé un délai normal entre le moment où on a mis en vente le bien et le moment où il est réellement vendu.
D'accord.
L'administration admet qu'un délai d'un an est a priori normal, mais dans certains cas, on a vu des juges admettre des délais de plus de deux ans quand des circonstances exceptionnelles ont fait que le bien est resté vide, ou en tout cas n'était plus la résidence principale.
On imagine que ce n'est pas le même régime quand il s'agit d'un appartement en région parisienne et éventuellement d'une grande maison familiale au fin fond d'une petite ville de province. Quoi. Enfin,
tout à fait.
Le marché immobilier n'est pas forcément aussi dynamique.
Et puis en fonction des périodes, il peut y avoir des périodes plus difficiles et qui justifient des délais de vente plus longs.
Vous nous avez précisé en début de propos que c'est finalement le notaire qui stipule dans l'acte de vente qu'il s'agissait de la résidence habituelle, enfin de la résidence principale du vendeur. C'est donc ça qui fait foi, mais c'est ça qui déclenche, on va dire, l'exonération, où il y a une demande à faire, si on oublie de la faire, enfin je sais pas.
Alors effectivement, en principe, c'est le notaire qui va interroger le contribuable, mais parfois, la question peut... mais soit pas posée, soit mal comprise par le contribuable et qui réalise après coup en fait qu'il aurait pu bénéficier de l'exonération. Eh bien, dans ce cas-là, il n'y a pas de panique à avoir. On peut toujours réclamer a posteriori l'exonération et en indiquant et en justifiant que le bien qu'on a cédé constituait sa résidence principale. Et dans ce cas-là, la réclamation qui doit être faite auprès de l'administration fiscale pour obtenir le remboursement de l'impôt doit être faite au plus tard le 31 décembre de la troisième année qui suit celle de la vente. Par exemple, un contribuable qui aurait vendu son bien en 2020 peut encore réclamer jusqu'au 31 décembre 2023 le remboursement de l'impôt de plus-value qu'il a payé.
vous savez tout désormais sur cette exonération de la résidence principale en termes de plus-value lorsque l'on vend. Merci beaucoup. Charles de Crevoisier, donc avocat au cabinet Fidal. À très bientôt.
Merci.
Le marché parisien qui a une tentation haussière, plus 0,25%, on est à 7221 points après avoir longtemps oscillé au cours de cette première heure de cotation autour de son niveau de clôture d'hier soir.
Votre rendez-vous avec Prime Alliance, expert SCPI et épargne immobilière pour les particuliers et professionnels du patrimoine.
0,25 donc, 7221 points ailleurs en Europe. On n'est pas encore aussi décidé qu'à Paris, plus 0,06 pour l'Eurostox 50. Les principaux arbitrages se font sur des boîtes comme Alstom, comme Société Générale, comme Renault ou encore Stellantis. Toutes ces valeurs tournent autour de 1,7, 1,2, 2,3% de hausse. Donc on voit des mouvements déjà assez décidés. Et puis du rouge sur Capgemini, sur Dassault ou encore sur Euro. Du côté des devises, le Rodol est à 1,07,19.
BFM Business, BFM Patrimoine, sur le grill.
Bonjour Julie Cohen.
Bonjour Cédric.
Julie Cohen-Horton donc pour BFM Business. Alors sauf si vous habitez depuis plus d'un siècle ou presque au fond d'une grotte sur une île isolée, vous ne pouvez pas ignorer que chaque printemps, c'est Roland-Garros, l'occasion pour nous de faire le point sur la responsabilité environnementale et sociétale de ce tournoi et de voir s'il peut être intéressant de soutenir ce monde du tennis en tant qu'investisseur. Julie, vous nous emmenez donc pas sur le green, mais sur le court.
Et oui, Cédric, une fois n'est pas coutume, je vous donne rendez-vous en terre battue, non pas en tant qu'athlète, même si je ne doute pas que vous excelleriez dans cette discipline, mais bien en tant qu'investisseur. Mais avant d'en venir au fait, j'ai une petite question pour vous, Cédric. Est-ce que vous savez combien de temps une balle de tennis met pour se dégrader naturellement?
Je dirais pas mal de temps, parce que comme c'est gavé de plastique, ça doit être très long, mais j'en ai aucune idée.
Ça met un petit peu de temps. Selon différents sites, une balle de tennis, elle peut mettre jusqu'à 2500 ans pour se dégrader naturellement. Le tennis fait en effet partie des sports qui sont les plus polluants, après le ski, la course automobile, le golf ou encore la natation. Mais comme beaucoup de secteurs, les professionnels, ils ont pris la mesure des défis environnementaux auxquels ils doivent répondre. La Fédération française de tennis, la fameuse FFT en tête. Il faut dire qu'en moyenne, pour chaque tournoi de Roland-Garros, ce sont plusieurs milliers de balles qui sont utilisées chaque jour par les athlètes, soit environ 60 000 balles chaque année, nous précise la FFT.
Est-ce que la réponse des acteurs de ce secteur, du tennis, est à la hauteur?
Alors, c'est difficile à évaluer, mais ce qui est sûr, c'est que dans le cadre de Roland-Garros, de nombreuses initiatives sont déployées pour limiter au maximum l'impact environnemental du tournoi. Alors, c'est notamment le cas d'une opération, l'opération Balle Jaune. Il s'agit d'une initiative qui a vu le jour en 2009 et puis qui s'étend d'année en année. L'objectif, il est simple, il est question de transformer les balles de tennis usagées en sol sportif pour les offrir à des structures à vocation sociale et solidaire, tout en sachant qu'en 2023, la FFT a décidé de renforcer son engagement en recyclant encore plus de produits grâce par exemple à la collecte de matériel sportif en bon ou en mauvais état.
Et concrètement, aujourd'hui, Roland-Garros en chiffres, ça donne quoi?
C'est quand même des gros chiffres. Roland-Garros, aujourd'hui, c'est pas moins de 20 cours de tennis. Un cours, le cours Philippe Chartier, qui peut accueillir jusqu'à 14 840 spectateurs. C'est 885 matchs qui ont été disputés en 2022. C'est aussi près de 42 millions de Français qui ont suivi au moins une minute le tournoi l'an passé. Et puis c'est enfin 613 586 spectateurs qui ont assisté au tournoi en 2022. C'est là l'un des records, Cédric, puisque ce chiffre, il a augmenté de 18% par rapport à la dernière édition en 2019. Avant la crise sanitaire.
Bon, donc, Roland-Garros ne fait pas exception à la règle et compte tenu du succès de l'événement, il y a un petit côté machine à cash.
Évidemment, Roland-Garros, c'est avant tout du sport, c'est des prouesses et des athlètes d'exception. Mais il faut être quand même lucide, Roland-Garros, c'est quand même le Graal pour la FFT puisque 81% de son chiffre d'affaires annuel provient de ce tournoi. Dans le détail, la billetterie, c'est aujourd'hui 17% des recettes de Roland-Garros. C'est en tout cas ce qu'expliquait récemment ce professeur d'économie, Mathieu Liorca, dans les colonnes de La Tribune. L'autre source de revenus, explique-t-il, c'est celle qui est liée à la diffusion télévisée. Depuis 2021, Roland-Garros possède un diffuseur privé. Ce diffuseur, c'est la plateforme de streaming américaine Amazon Prime Video qui retransmet en exclusivité tous les matchs du cours Simone Mathieu ainsi que toutes les night sessions. L'an passé, 114 millions d'euros ont été générés grâce aux droits TV.
Et puis il y a le sponsoring aussi.
Ah oui, hein, au total, le sponsoring rapporte aujourd'hui 60 millions d'euros au tournoi, soit 19% de ses recettes pour cet événement. Et puis il y a enfin aussi la rénovation du site de Roland-Garros qui s'est achevée en 2021. Elle a donné au tournoi la possibilité de multiplier les loges destinées à attirer les grandes entreprises. Une hospitalité hein, qui a permis à Roland-Garros d'empocher pas moins de 56 millions d'euros, soit 18% des revenus totaux de l'événement, toujours selon les calculs de Mathieu Liorca.
Alors j'imagine que si on additionne tous les chiffres que nous avez donnés, Julie, ça fait que la FFT a les moyens d'agir en faveur de l'environnement.
Effectivement, et pour le coup, c'est un engagement qui ne date pas d'hier. Ça fait déjà plusieurs années que le tournoi a pris le parti de s'engager de façon durable pour réduire son impact environnemental. La FFT explique clairement, elle a inscrit le développement durable au cœur de sa stratégie fédérale. Et au-delà de l'opération Balle Jaune, la preuve la plus flagrante de cet engagement, c'est celle qui fait que Roland-Garros, il a été le premier événement sportif français de dimension internationale à être certifié ISO 20121. Pour faire simple, cette certification, elle concerne le système de management responsable appliqué à une activité événementielle. Et on sait, qu'il soit sportif ou non, les événements peuvent avoir un impact significatif, tant d'un point de vue environnemental que sociétal. D'où cette certification, elle a son importance. Roland-Garros l'a obtenue d'ailleurs il y a 10 ans. Et elle atteste notamment du fait que la FFT met tout en œuvre pour favoriser, par exemple, une mobilité plus durable. Elle atteste que la FFT fait en sorte de limiter au maximum les déchets. Et elle atteste enfin que la FFT fait en sorte de favoriser le développement d'énergies renouvelables.
Est-ce que tout ça, ça constitue de bons signaux, de bons indicateurs pour les investisseurs?
Sur le papier, c'est même des très très bons indicateurs. Mais attention, il existe certes différentes options si vous souhaitez soutenir la filière tennistique ou le monde du sport en général. Sauf que certaines de ces options, elles sont particulièrement audacieuse pour ne pas dire franchement risquée. C'est le cas de plusieurs plateformes de trading qui ont vu le jour ces dernières années et qui ont pour ambition de permettre aux investisseurs de miser sur des athlètes et d'en tirer profit. On peut notamment citer l'entreprise française Royalties ainsi que la société franco-américaine Trendex. Concrètement, ces deux entreprises, elles fonctionnent par le biais de talents, des talents que les investisseurs peuvent acheter comme des actions. Une fois introduits sur un marché virtuel, ces talents voient leur cote fluctuer en fonction de leur notoriété et de leurs accomplissements professionnels. Dans l'idée, c'est assez ingénieux, mais il s'agit d'investissements à risque. D'abord parce que le process est calqué sur le système boursier. Ensuite, parce que ces deux plateformes, elles ne sont pas régulées ni par l'AMF, ni par l'Autorité nationale des jeux. En tout cas, pas pour l'instant.
Bon, et si on veut être moins audacieux, il y a d'autres options?
Oui, vous pouvez par exemple passer par le biais de fonds spécialisés qui sont dédiés à l'industrie du sport et qui ont pour but d'identifier les opportunités en termes de croissance et de création de marques dans ce domaine. C'est le cas par exemple du fonds FPCI Linksport qui est proposé par la maison 123IM. Et l'avantage, c'est qu'il s'appuie sur l'expertise d'un collectif de sportifs de haut niveau et d'entrepreneurs. Une autre option plus récente, c'est celle qui consiste à acheter des NFT, une première collection baptisée RG Game Sit and Match. Elle a été lancée en 2022 par la FFT sur une blockchain Polygon et elle permet aux détenteurs moyennant 200 euros le NFT de participer à un grand tournoi virtuel de Roland-Garros. Je suis sûre que ça vous dit, Cédric. Mais c'est vrai que les NFT en 2023, c'est un petit peu grandeur et des cadences. Ils ont connu leur heure de gloire en 2021, puis début 2022, puis depuis, les ventes ont littéralement chuté, les projets ont disparu et certains investisseurs se retrouvent avec des NFT qui ne valent plus grand-chose. Donc C'est amusant sur le papier, c'est loin d'être l'option la plus sécurisée et responsable.
Et si on veut combiner tennis et placement vert, on fait comment ?
Eh bien, c'est pas franchement évident, hein, mais il y a notamment une initiative que j'aimerais saluer. Cette initiative, elle s'appelle Bounce. Elle a été lancée en juin 2022 via une campagne de financement participatif. À date, elle a récolté 82 000 euros. Et pour faire simple, Bounce, c'est une start-up belge qui a conçu un tube qui permet de recréer un environnement pressurisé à la fin de chaque partie, un tube dans lequel on place ses balles. Son ambition, eh bien, c'est évidemment de rendre les balles de tennis plus responsables. Comment ? En augmentant la durée de vie de ces balles. Aujourd'hui, la campagne est terminée, mais vous pouvez toujours précommander votre tube Bounce sur le site de la marque. Sur le papier, vous ne gagnerez pas grand-chose, mais vous augmenterez au moins la durée de vie de vos balles. Donc, à défaut d'être sécurisé ou particulièrement rentable, les options aujourd'hui pour investir et soutenir un tennis plus responsable, elles ont le mérite d'exister. Et puis, l'avantage dans tout cela, Cédric, c'est qu'avec tous ces éléments en tête, au moins, la balle, elle reste dans votre camp.
Merci beaucoup, Julie. Et puis, on vous retrouve tout à l'heure, à partir de 12h15, sur tous nos supports digitaux.
Et oui, on se retrouve à partir de 12h15 en direct sur tous nos réseaux sociaux. On va répondre aujourd'hui dans BFM Patrimoine, les tutos, à une question. Comment investir dans l'immobilier à 25 ans? C'est vrai que dans le contexte actuel, c'est pas évident. Alors, on va répondre à toutes vos questions et je serai pour l'occasion accompagnée de Stéphane Descartiers pour la Maison de l'Investisseur. Et d'ici là, écrivez-nous, envoyez-nous vos questions à l'adresse bfmpatrimoine@bfmbusiness.fr. Cédric.
À suivre, bien évidemment, dans un instant, un détour par les marchés et regards croisés. À tout de suite.
BFM Patrimoine. L'émission 100% placement sur BFM Business.